Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de LegioBox. Nous nous intéressons aujourd'hui à un produit, le sucre. Nous verrons comment la culture de la canne a eu des répercussions économiques, sociales et environnementales considérables. Et tout ça en musique. Allez, c'est parti.
Parole de descendant de coupeurs de canne.
Originaire d'Asie, la canne à sucre gagne la Méditerranée puis les îles de l'Atlantique à la faveur des expansions impériales. Au cours de leur voyage d'exploration le long des côtes africaines, les Portugais décident de cultiver de la canne à sucre à São Tomé. Ils y transfèrent des esclaves depuis le continent pour exploiter la plante. Une fois installés au Brésil, ils transposent ce modèle d'exploitation fondé sur le travail servile. Espagnols, Français et Britanniques adoptent à leur tour un système similaire.
Salut fraternel à ceux qu'on déracina, à ceux qu'on arracha à leurs terres, à ceux qu'on enchaîna à produire du coton et de la canne à sucre. Mon attention est attirée à l'autre côté par la petite île de Gorée. Souvenir d'un épisode douloureux de l'histoire des relations nord-sud.
La plante nécessite une main-d'œuvre très nombreuse. Dans un premier temps, les colons ont recours au travail des populations autochtones, mais l'hémorragie démographique subie par les indigènes, terrassée par le choc microbien, incite les Européens à trouver d'autres travailleurs. La nécessité de cultiver la canne entraîne l'instauration d'une traite massive, contribuant à la déportation de millions d'Africains aux Amériques. Dans les veines ouvertes de l'Amérique latine, en 1971, Eduardo Galeano consacre un chapitre au roi sucre, El Rey Azúcar, qu'il qualifie de plante égoïste, qui épuise la terre, ravage la forêt. Les Argentins de Los Fabulosos Cadillacs insistent à leur tour sur les ravages humains et écologiques perpétrés au nom du roi sucre dans un titre intitulé lui aussi Las venas abiertas de América Latina. La demande en sucre ne cesse d'augmenter en Occident. Or, en l'absence d'innovation technique significative, la seule solution trouvée consiste à étendre toujours plus les plantations, ce qui implique toujours plus de main-d'œuvre. C'est donc sur l'exploitation de la canne à sucre que se fonde l'esclavage en Amérique latine et aux Caraïbes. La plante y façonne les paysages, incarnant plus qu'aucune autre la colonisation. L'introduction de cette plante importée a également de très graves conséquences environnementales. Les forêts tropicales qui couvraient la Barbade, la Jamaïque, la Guadeloupe, disparaissent sous l'effet du défrichage et du brûlis. Elles sont remplacées par des champs géométriques reliés par des routes à l'usine et au port. Des plantations de canne à sucre existent au nord de l'Argentine. Avec Canción del Carnaveral, le barde argentin Atahualpa Yupanqui met en parallèle la difficulté du travail à effectuer avec l'appauvrissement d'une terre épuisée par la culture de la canne. Je le cite. « Canne à sucre, petite et verte, comme elle est sucrée, comme elle est sucrée. Mais au bout de la récolte, elle nous fait suer sang et eau. Elle nous fait suer sang et eau. »
Yo tengo un sueño secreto, vivo por él, vivo por él. No hay trapiche que a mi sueño pueda moler, pueda moler. No hay trapiche que a mi sueño pueda moler, pueda moler.
L'économie sucrière est un système monde. Réservé dans un premier temps aux riches élites aristocratiques, le sucre devient progressivement un produit de consommation courante en Europe. Dès lors, tous les empires coloniaux s'adonnent au commerce du sucre, ce qui nourrit une véritable addiction. La demande toujours plus grande implique donc un besoin sans cesse accru d'esclaves africains. Le sucre devient un gouffre à vie humaine. Dans El Cañaveral, Fernando Soria revient sur le triste sort des esclaves. Pauvres esclaves noirs qui, pour gagner leur pain, passent toute leur vie à l'intérieur du champ de canne.
Pobres los negros esclavos que para ganarse el pan trabajan toda la vida dentro del cañaveral. Anda, camina, negrita. Vamos pa'l cañaveral a cortar la caña dulce.
Après le Brésil, la canne gagne les Caraïbes et en particulier Haïti. Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, l'île produit davantage de sucre que toutes les Antilles anglaises et espagnoles réunies. Sur les plantations sucrières, l'espérance de vie ne dépasse pas une dizaine d'années. La mortalité est moins liée au châtiment des maîtres qu'à la surcharge de travail, à l'alimentation insuffisante et au manque de repos. Les abolitions de l'esclavage au cours du XIXe siècle ne sont pas que le fait d'une pensée humaniste portée par le courant des Lumières, mais s'expliquent aussi par la multiplication des révoltes d'esclaves. Par exemple, à Haïti, en 1791, les esclaves se soulèvent, détruisent les plantations, mettent le feu aux sucreries et se débarrassent des colons. Des considérations économiques entrent également en ligne de compte. Le salariat journalier devient ainsi plus avantageux économiquement que l'esclavage. Plus besoin désormais de nourrir et loger une population servile à vie. Pour remplacer les esclaves, les planteurs recourent ainsi à des travailleurs étrangers engagés, principalement asiatiques, des Indiens à Trinidad, Japonais à Hawaï, Chinois en Jamaïque. Des contrats léonins sont imposés à ces travailleurs dont la situation se rapproche beaucoup de celle des esclaves. Ils doivent s'approvisionner dans la boutique du propriétaire auprès duquel ils contractent des dettes. Au bout du compte, ils ne sont jamais payés et se trouvent ainsi pieds et poings liés. Pour planter la canne, il faut creuser des trous à la houe et faire des monticules en cadence, un rythme soutenu. La période de la récolte est également éreintante. Il faut couper la canne en étant pliée en deux, puis faire des boisseaux. Ces derniers sont rapidement apportés en charrette au moulin afin de broyer la canne pour en extraire le jus, avant de le faire bouillir pour produire le sucre. Cela implique des journées de travail de 18 à 20 heures. Le travail s'avère exténuant, extrêmement pénible et très dangereux. Dans Les Coupeurs de Canne, Daniel Forestal et son ensemble insistent sur la difficulté de la tâche à accomplir et sur l'absence de reconnaissance.
Le temps se ruisselant d'une sueur qu'ils n'ont pas eu le temps d'essuyer, car le temps presse, les coupeurs de canne. Quand ils seront payés à la fête de la quinzaine, ils auront abattu des cannes par tonne. Mais le poids de leur souffrance, leur effort et de leur peine n'est pas connu de tous, et ils prient la Madone, les coupeurs de canne.
El Baiben de mi carreta, qu'on pourrait traduire par « Au roulis de ma charrette », est une célèbre guajira de Nico Sacchito. L'auteur y dépeint de manière très émouvante l'accablement du paysan cubain face à l'exploitation et à la misère. Un charretier chante en conduisant son attelage. Guillermo Portabalès, le maître de ce genre musical très populaire dans les campagnes cubaines, l'interprète de façon impressionnante. Je le cite. « Quelle triste vie celle du charretier, brinque-ballant dans ses champs de canne, sans cesse il lutte, pauvre, résigné, pour traverser les rues de lagune. »
Triste vida la del carretero, que anda por esos cañaverales, sabiendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares.
Le salsero Cheo Feliciano raconte l'ambiance qui règne parmi les travailleurs à la fin de la récolte en Tiempo Muerto. Le planteur repart avec les poches remplies alors que les coupeurs de canne, désœuvrés, souffrent de la faim. Je le cite. « La moisson est finie, encore une fois il n'y a plus de travail. Le patron est allé trop loin et laisse la faim aux commandes. Pour tout superviser, pour commander, effectuer des paiements, tant que dure le temps mort sur des sillons désolés. »
Yo no soy de los que piensan que la gula es saludable. Yo como poco y bebo poco. No niego un bocado a nadie, pero se acabó la zafra, otra vez no hay más trabajo. El patrón se fue muy lejos y dejó al hambre encargado de supervisarlo todo, de ordenar y hacer los pagos, mientras dura el tiempo muerto sobre surcos desolados.
Moment la grève barre et moins. Et une célèbre chanson du patrimoine musical martiniquais, témoignage de la grande grève des ouvriers agricoles des plantations de canne en 1900. La répression brutale des gendarmes fit 10 morts parmi les travailleurs. Léona Gabriel, alors âgée de 8 ans, raconte ses souvenirs. « Maman, la grève m'a barré le chemin. Monsieur Michel veut pas payer de francs. Je suis sorti ce matin pour descendre en ville. Avant, je prenais le grand pont, mais la grève m'a barré le chemin. Ils ont brûlé la canne à sucre des béquets et incendier leur maison, mais M. Michel veut pas payer 2 francs.
Et ouais, M. Michel, pas les bails 2 francs. Yo, brûle les cannes bêtées, yo, incendie habitation, yo. Ma goé, tout ça, yo, paye à M. Michel, pas les bails 2 francs.
Le sucre revêt une importance stratégique considérable. Ainsi, la dépendance au sucre des États-Unis convainc les Américains de faire des Caraïbes leur chasse gardée pour pouvoir s'y procurer sans souci le précieux produit. Dès lors, la présence économique et militaire américaine ne cesse de s'y renforcer. Cuba devient ainsi l'usine à sucre des États-Unis, en tout cas jusqu'à la prise de pouvoir de Castro en 1959. Plus que jamais, le sucre s'impose comme un produit politique, comme le rappelle le morceau Yo si tumba caña. Le Cuarteto de Ayda y chante « Tout bon cubain doit couper la canne pour le triomphe de la révolution ».
Yo si tumba caña, mi hermano, porque soy buen cubano. Yo si tumba caña, mi hermano, porque soy buen cubano. Todo buen cubano tiene que dar su cooperación y acortar la caña bien para la revolución.
Sac de sucre de la rappeuse Kazé narre le quotidien d'un ancien esclave. Certains affranchis n'en continuent pas moins de vivre sous la domination des béquets, les anciens propriétaires d'esclaves, dont les descendants continuent de contrôler l'économie des ex-îles à sucre. Elle rappe. Désormais libre, oui, mais toujours inférieur.
Désormais libre, ouais, mais toujours inférieur. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre. J'ai été poursuivi, asservi, enlevé à l'Afrique et livré pour un sac de sucre. Le matin au lever, j'accomplis mes corvées, ma vie est rivée à un sac de sucre.
L'essor de la betterave à sucre participe au déclin de l'activité sucrière des îles caribéennes. Mais la canne continue à faire des ravages, comme le prouve la situation des Haïtiens en République dominicaine. Maintenus dans un état de sujétion, privés de leurs papiers et de leurs droits sociaux, ils peuvent être considérés comme des esclaves modernes. Voilà, l'épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté et à bientôt.